Vous écoutez Choc pour sortir des ondes. Podcast, musique, découverte sur choc.ca.
Bonjour, bonjour à vous tous et bienvenue à ce 72e épisode de Pop en Stock Radio. Comme vous le savez bien, ou comme vous allez l'apprendre, Pop en Stock est l'extension de la revue web portant le même nom. C'est aussi un podcast et une collection d'essais aux éditions de ta mère. Récemment, en fait, dans les dernières semaines, on voit un changement progressif, un glissement qui est en train de se faire pour le meilleur au sein de l'émission. En fait, de plus en plus de gens viennent proposer des épisodes à caractère, en fait, avec des thématiques qui, à mon avis, sont très personnelles. Des gens qui ont une volonté, peut-être une énergie, une pulsion incontrôlable de venir parler de quelque chose qui, à leur opinion, mérite une tribune et sont dignes d'intérêt. Mathieu, tu es définitivement dans les premières personnes à avoir proposé un truc, et j'aimerais utiliser l'introduction de l'émission pour un peu hommager cette initiative-là, parce que Mathieu Ligoyette, qui est ici présent, critique de cinéma pour Panorama Cinéma, aussi un candidat à la maîtrise...
Doctorat maintenant.
Doctorat maintenant, félicitations! Enfin, un maître SR portant sur Jack Kirby, qui maintenant tend sa perche vers le doctorat, qui, comme je vous disais il y a quelques semaines, en fait peut-être même quelques mois maintenant, t'es venu me voir et t'as dit, il me semble qu'il faudrait qu'on commence à parler de ces grands de la bande dessinée-là, parce que pour la majorité, ils sont décédés, mais il en reste encore quelques vivants. Il reste encore aussi de ces gens-là qui ont beaucoup, beaucoup, beaucoup d'histoires à raconter, et Pop en Stock devrait d'abord et avant tout, ou du moins dans le meilleur de ses capacités, être dans l'avant-garde de cette discussion-là dans la francophonie sur ces auteurs-là. Puis là, j'ai fait, ben Mathieu, c'est une idée splendide.
Ben, l'idée, si je me permets, si ben, je peux me permettre aussi, c'est de ramener ces auteurs parfois à la surface, dans la mesure où est-ce que j'aimerais qu'avec cette série-là, on puisse les remettre au centre d'un débat, ou qu'on puisse se servir en fait de la bande dessinée et de l'œuvre de ces auteurs pour... les réactiver, voir ce qu'ils ont encore de pertinent à nous dire aujourd'hui, ausculter en même temps, je dirais, l'état de la bande dessinée contemporaine, parce que je voudrais pas non plus que cette série de portraits de BDistes regarde uniquement vers le passé ou uniquement vers le comic book américain. Hein. J'aimerais, par exemple, que le prochain portrait soit sur un mangaka.
Primeur.
Ben oui, pourquoi pas. Puis, donc c'est ça, en fait.
Ouais. Mais c'est ça qui était très intéressant, parce que je pense pas que tu as hésité quand je t'ai posé la question sur qui tu voulais travailler en premier.
Ouais, non, pour moi, la question se posait pas de Denis O'Neill.
Exactement, ouais, et on a la chance, en fait, de t'avoir ici. Ben, moi, personnellement, je suis super content d'avoir la chance de pouvoir parler de Denis O'Neill avec toi pendant une heure.
Je suis très content d'être ici aussi.
C'est quelqu'un d'exceptionnel, et si on fait pas de disclaimer à l'émission... Il va en avoir une pour cet épisode-ci, plus particulièrement. Je crois que, plus que n'importe quel autre créateur qu'on a souligné, celui-ci, on veut que vous ayez le découvrir. Donc, ce ne sera qu'une introduction. On vous en prie, chers auditeurs, continuez cette recherche-là, parce que après deux semaines de recherche assez exhaustive sur, sur l'individu, je réalise que je n'ai que débuté. Mmh. Il est d'une importance primordiale, et c'est aussi un humain exceptionnel.
Ah oui, tout à fait. C'est vraiment un auteur immense. Puis de toute manière, on aura l'occasion d'en reparler. Faut savoir peut-être a priori que la majorité des discours autour de Denis O'Neill ont tendance à se concentrer sur ce qu'il a fait en compagnie de Neil Adams durant son passage sur Green Arrow.
Ouais.
Puis, en particulier, en fait, on cite beaucoup le premier numéro, où est-ce qu'il y a un Afro-Américain qui sermonne Green Lantern.
Mm-hmm. You did stuff for the blue man, you did stuff for the purple man, but what have you done for the black man?
Exactement. Et un numéro après, un peu plus tardif, très célèbre, surtout à cause de sa couverture, parce qu'on y voit Speedy, donc le sidekick, l'adjuvant de Green Arrow, s'injecter. En fait, non, il ne s'injecte pas, mais en tout cas, on voit une seringue d'héroïne à côté de son bras, puis on comprend bien ce qui s'est passé.
Ouais, accompagné de la captation.
C'est ça.
Mon sidekick est un junkie. Je suis coupable de l'avoir.
My ward is a junkie.
My ward is a junkie, c'est encore mieux. Mais oui, c'est effectivement ce qui a occupé la majorité.
Oui, puis c'est un peu dommage parce que ça n'enlèverait absolument rien à cette série-là, qui est probablement en fait la meilleure manière d'aborder Denis O'Neill. Mais c'est vrai que c'est un auteur.
Ah oui, mais c'est ça.
Beaucoup plus à offrir.
Ben, c'est quand même important, en fait, les avancées, parce que, bon, on utilise souvent Denis O'Neill, notamment par ces exemples-là, pour, ben, comme astérisque à toutes ces déclarations-là qu'Alan Moore, Frank Miller sont les doyens du Dark Age, sont eux les précurseurs du moment où on a commencé à traiter les comic books super-héroïques et plus précisément les personnages comic books super-héroïques comme des héros d'immature. Mais Denis O'Neill y était bien avant. Je pense que c'est pour cette raison-là que ces deux numéros-là sont beaucoup plus cités. C'est qu'on est continuellement en train de dire c'est pas juste un truc de Watchmen et Dark Knight. Il y avait Adams et O'Neill avant. Ouais. Mais il y avait beaucoup plus à O'Neill avant ces deux numéros-là. Et il y a eu beaucoup plus après aussi. Donc, peut-être dans le contexte de ces missions-là, élargir un peu le spectre. Non?
Ben oui, non, tout à fait. Oui. Donc, écoute. Peut-être qu'on peut commencer par le petit extrait d'entrevue, en fait, qui a été fait avec un podcast qui s'appelle, je ne me trompe pas, Hobo Podcast. C'est une entrevue qui est assez récente. Vous nous excuserez pour la qualité du son. Si j'ai bien compris, dans l'entrevue originale, ça se passe par voie de téléphone, donc.
OK, on va aller écouter ça à l'instant.
In the comics because I was a newspaper reporter in a little town in southeast Missouri, and I noticed that I was seeing comic books in drugstores and bus stations, and then it occurred to me that I hadn't seen them for years and years. They were very important to me when I was a little kid, but then I just totally, you know, high school girls, other interests. And one of the things I had to do was write about, fill the kids' page on Saturday, which was hard to do because during the summer because there was no school activities. So I played a hunch and thought maybe comic books are making some kind of comeback. And I did a little very rudimentary journalism, and I was right. So I did a couple of stories on the return of comics, and then Roy Thomas got in touch with me. His parents subscribed to the paper, and he had just accepted an offer for a job from Mort Weisinger at DC. And a month later, or so, he sent me the Marvel writer's test. He had not worked for Mark very long. He'd taken a job with Stan Lee, and Marvel was just beginning to explode. And Stan had originally done everything himself. He'd done all the writing and all the editing. But he took on a couple of guys that didn't last very long, and then, one whose name I know, but I'm too charitable to relay it. And he hired Roy, and it still wasn't enough. They needed another assistant. So Roy sent me these four pages of Fantastic Four art without copy. And that was the writer's test. My mission, should I choose to accept it, was to add words to those pictures. And who wouldn't do that? I mean, so I did it, and sent it off and went about my journalistic business, played a prank on the police department, managed to alienate virtually everybody in town who was an authority figure. I got a letter from Roy saying that Stan had liked my writer's test and I had the job. So the whole universe was telling me to go east. So about 10 o'clock one night, another reporter and I packed my car, and I started driving east. I kind of rescued Anne in Boston and then continued on to New York.
Donc, c'était la voix de Denny O'Neill. Quoi, presque 70 ans maintenant?
Oui, en fait, un peu plus de 70 ans.
Un peu plus, toujours très, ouais. Très, très allumé encore.
Oui. En fait, ce que je trouve intéressant, ce que ça nous dit, c'est, je trouve ça très intéressant de voir comment les gens pouvaient être recrutés chez Marvel à l'époque, hein, on s'imagine, là, donc... devoir remplir les phylactères laissés blancs de 4 pages de Fantastic Four dessinées par Kirby. C'est un peu l'examen d'entrée pour rentrer chez Marvel Comics. C'est quand même quelque chose. Hein. Je voulais présenter cet extrait-là parce que ce que ça montre, c'est que le rapport qu'a O'Neill avec le comic book, il l'a depuis sa jeunesse. Il faut savoir que dès qu'il a environ 6-7 ans, c'est quelqu'un qui grandit dans une famille qui est très religieuse, catholique. Ils vont à la messe chaque dimanche, puis sur le retour de la messe, en fait, son père s'arrête dans un convenience store, en bon français, puis fait les emplettes et achète chaque semaine un comic book au jeune Denny. Puis, ce qui va se passer rapidement, c'est qu'après ça, O'Neill va se rendre compte qu'il adore ça, qu'il est particulièrement réceptif déjà à Batman. Puis, il veut en lire plus. Il veut compléter des séries. Il veut à peu près tout lire ce qui se fait. Donc, ce qu'il commence à faire, en fait, c'est qu'il se promène dans son quartier avec une petite brouette chargée de ses comic books. Puis, il va cogner à la porte de ses voisins qui ont aussi des comic books. Là, je parle de ça, c'est... fin des années 40 environ. Donc, on est encore dans l'âge d'or de la bande dessinée américaine. Puis, il va faire des échanges, comme ça, un genre de réseau d'échanges entre amis. Puis, donc, son amour du comic book, en fait, débute dès sa jeunesse. Pourquoi je veux parler de ça, c'est parce que O'Neill fait partie avec Roy Thomas, l'autre personne dont on a entendu parler dans l'extrait, de cette première génération d'écrivains qui va arriver au comic book par le comic book. On n'est pas face à, par exemple, des gens comme Stan Lee, comme Jack Kirby, qui, eux, fils de juifs immigrés, voient le comic book, ce qu'ils appelaient le funny book business à l'époque, comme quelque chose qui est, pas très classe. Stan Lee, par exemple, anecdote est célèbre, voulait pas se faire appeler Stanley Lieber, parce que qui est son vrai nom, qui voulait se garder sous le coude, en fait, en attendant d'écrire ce qu'il appelait son grand roman américain, qui est finalement jamais venu. Donc, il y a quelque chose de pas très honorable à travailler dans l'industrie du comic book. Puis la situation va continuer à s'envenimer, d'autant plus au courant des années 50, avec la fameuse affaire de Frederick Wertham, la publication du livre Seduction of the Innocent, dont on a parlé souvent là, à l'émission, qui grosso modo va dire que les comic books, en particulier ce qui se fait dans le horror comics, par exemple, ou dans le crime comic, corrompt la jeunesse.
Mm-hmm. Ouais.
Donc, O'Neill grandit dans ce milieu-là.
Dans ce climat-là. Des autodafés aussi.
Oui.
Quand même un gros moment traumatisant pour une grande partie de la jeunesse.
Ben oui, exactement. Où est-ce qu'il y a carrément des bonfires de comic book dans des villages où les gens viennent avec leurs enfants pour les brûler. Puis c'est même les curés qui encouragent les enfants. Ouais. Les curés et les professeurs qui encouragent les parents à amener leurs enfants là.
Puis t'as une génération de ces créateurs de bande dessinée-là qui citent ce moment-là comme un moment où, essentiellement, il fallait qu'ils choisissent.
Oui, tout à fait. Ben, ce qui est très intéressant pour revenir à Roy Thomas,
oui.
C'est qu'à l'époque, Thomas assiste à ses bûchers de comic book, mais lui, il assiste en fait pour sauver les meilleurs comic book des Flandres.
Ouais, il jetait ceux-là qu'il aimait pas.
Oui, c'est ça, ceux qu'il aimait pas, puis il sauvait ceux qui l'intéressaient. C'est ce que je trouve très drôle.
Ouais.
Donc, en tout cas, Thomas et O'Neill qui vont se suivre longtemps, ils vont à peu près... jamais travaillé ensemble, sauf chez Marvel, là, au tout début de leur carrière. Mais en tout cas, ils vont suivre. Ils vont devenir des amis de longue date. Puis, donc tout ça pour dire, O'Neill finit par arriver à New York après une longue histoire rocambolesque que je vous invite chaleureusement à écouter. Elle a été racontée avec le plus de détails, en fait, dans le podcast de Kevin Smith, Fat Man on Batman, où est-ce que O'Neill fait état de tout ça pendant une bonne heure.
Le total, c'est 4h30 quand même.
Oui, ce, oui, ce c'est toute une entrevue c'est... fleuve, là, c'est du gros bonbon. Là.
Oh, oui,
vraiment.
Surtout que c'est ça, il a fait ça il y a à peine 2 ans.
Oui, 2012, 2013.
Mais non, il y avait Arrow qui avait commencé.
Ah oui, c'est vrai, t'as raison.
Donc c'est assez récent. Et encore, c'est aussi une belle démonstration de sa
vivacité d'esprit.
Vivacité, merci. Ouais. J'ai toujours peur de le traiter de plante.
Puis, donc, c'est ça. C'est dans ce contexte-là qu'O'Neill grandit. Ça va faire de lui, à mon avis, un auteur qui, à l'image de, à l'instar de Roy Thomas, est extrêmement conscient, en fait, des habitudes de lecture du lectorat. Il est conscient que le lectorat a un profond désir à ce moment-ci, là, dans les années 60 ou au tournant des années 70, un désir de sérialité qui se fait de plus en plus sentir. Mm-hmm. C'est sûr qu'à l'époque, bon, les éditeurs empêchaient le plus souvent les auteurs d'étendre leurs histoires sur plusieurs numéros, essentiellement, en tout cas, c'est ce qu'on dit, parce qu'à l'époque, il y avait énormément de problèmes de distribution. Donc, par exemple, si tu avais le numéro 40 de Superman, pas de Superman, de Green Lantern, par exemple, dans ton dépanneur, ça ne voulait pas dire que tu allais avoir le numéro 41 le mois d'après.
Ouais.
Donc, ça va longtemps, en fait, jusqu'à ce que les magasins spécialisés, qui sont les magazines comic book, jusqu'à ce que les magazins spécialisés apparaissent.
Ouais, puis qu'il y ait le direct market.
Puis qu'il y ait le direct market avec Diamond et tout ça. Ça va prendre beaucoup de temps là, avant,
avant
que la réalité se fasse sentir là, beaucoup.
Ouais, et qu'elle soit à toute épreuve, là, que tu peux compter sur le fait que tu vas avoir un comic.
Ben oui, oui, tout à fait.
Si tu le cherches.
C'est ça. Donc, ce qui est intéressant rapidement chez O'Neill, je trouve, c'est son rapport aux politiques. Je dis aux politiques plutôt qu'à la politique. Le petit distinguo qu'il y aura à faire, c'est que, bon, la politique, ça serait... c'est la politique telle qu'on l'entend habituellement. Donc, la gestion du pays, des affaires publiques, la vie politique. La politique a plusieurs... se manifeste sous plusieurs formes, mais le politique, lui, c'est plus précisément... l'acte de coexistence au sein de la cité, la cité vraiment là au sens grec.
Oui.
Disons pour faire simple que c'est le vivre ensemble, le politique. Ce qui est intéressant, à mon avis, chez O'Neill, c'est que le politique devient un élément esthétique qui, tranquillement, peu à peu, va devenir une partie intégrante de son discours sur la société américaine qui, à l'époque, un peu voit un peu l'éclatement des différents foyers de subjectivité qui pouvaient y avoir avec justement l'apparition de différents groupes culturels, de différents groupes ethniques qui vont chacun leur tour essayer de trouver leur voie à travers des magazines, la musique, le cinéma, etc. Puis O'Neill y arrive en fait parfaitement au bon moment dans l'industrie du comic book en 65-66 chez Marvel Comics. Il commence à écrire des scénarios de Millie the Model, il va écrire des scénarios de Western Comics, puis après, il va tout de suite s'enligner sur Doctor Strange, où là, il va commencer à travailler avec Steve Ditko.
Ouais.
Puis, pour moi, cette rencontre-là avec Ditko, puis ensuite avec Bill Everett, parce que c'est Everett qui va passer après Ditko sur Doctor Strange, va être déterminante parce que, je ne sais pas ce que tu en penses, Jean-Michel, pour moi... Ditko, en fait, l'importance de Ditko est pas... évidemment, il n'est pas seulement au niveau du dessin. On en a déjà parlé quand on a fait une émission sur Doctor Strange de la fascination de Ditko pour les écrits de Ayn Rand.
Mm-hmm.
L'importance de Ditko est aussi celle de la manière de condenser des enjeux politiques, des enjeux idéologiques, un peu du zeitgeist de l'époque, dans des dilemmes moraux que doivent vivre ou à travers desquels doivent vivre les protagonistes de ces histoires.
Ouais.
Par exemple, bon, Peter Parker avec des grandes responsabilités, etc. Le grand pouvoir correspond à grandes responsabilités. Donc, ces enjeux-là, en fait, traversent la carrière de Ditko, traversent particulièrement le personnage de Doctor Strange, dans la mesure où est-ce que, quand Doctor Strange accède au monde des rêves, tout à coup, ses idées, en fait, se mettent à se matérialiser. Puis à partir de ça, je me rappelle dans cet épisode-là sur Doctor Strange, on avait parlé justement de cette idée que certains épisodes au tout début de la carrière du personnage, où est-ce que, par exemple, si le personnage doute, le passage devant lui, la passerelle devant lui s'effondre.
Ouais.
Puis c'est un personnage qui ne peut pas faire marche arrière. Donc en fait, Ditko matérialise les idées philosophiques qui le fascinent, les enjeux idéologiques qui le fascinent, dans la bande dessinée, avec des trucs qui, justement, finissent par avoir une gueule un peu abstraite. Quand on regarde, par exemple, les visions fantasmagoriques du monde fantasmagorique dans lequel Dr. Strange se plonge pour combattre Dormammu et compagnie.
Mais je trouve que ta proposition est vraiment... elle est éclaircissante à un point tel que je ne l'avais jamais entendu, cette idée-là que le contact entre ces deux hommes-là, parce que Deadpool, sans vouloir trop lui en mettre sur les épaules, c'est potentiellement un des premiers grands idéologues de la bande dessinée.
Certainement, oui.
Un des premiers grands... un des premiers à avoir dit on peut mettre des... on peut imposer nos philosophies sur ces personnages-là, nos philosophies personnelles. Mm-hmm. Puis bon, dans son cas, lui, oui, c'est le rendisme. Mais cette proximité-là à Denny O'Neill a potentiellement permis à O'Neill, ou a peut-être influencé O'Neill à dire « Ben moi, mes idées que j'ai sur le politique, comme tu le dis, parce que bon, c'est assez amusant de regarder comment Ditko s'est replié sur lui-même.
Ouais.
Toutes ses créations ont fini par devenir des trucs très isolés, individuels, automatiquement reliables à Ditko lui-même.
Oui, puis assez rigide au final.
Exactement. Ouais. Et O'Neill a, tout en étant très influent de cet idéologue-là, quand même fait, ben regarde, moi, ça va être le politique, comme tu le décris. Moi, je vais parler du monde. Je vais voir comment est-ce que mon monde et leur monde correspondent. Et on va essayer de changer le monde. Peut-être essayer moins de changer ma personne. Fait, je trouve que c'est une très belle proposition de dire que parce que ces deux gars-là ont travaillé ensemble, il y a probablement une influence ou un leg qui s'est fait... sur Daniel Lille, qu'on souligne rarement.
Ils se sont suivis longtemps, en fait. Ils sont partis ensemble après chez Charlton Comics. Ils vont arriver ensemble chez DC Comics vers la fin des années 60. Puis, en fait, dans une histoire, dans une anecdote, en fait, là, qui vaut quand même la peine d'être racontée, à l'époque, Denny O'Neill se cherche, parce qu'il vient d'avoir mon premier enfant, il cherche un nouveau contrat d'écriture avec quelque chose qui serait un peu plus payant. Puis, il entend dire que chez DC, il cherche des gens, donc il applique. Puis, en fait, il est recruté chez DC en compagnie de Steve Ditko.
OK.
Puis en fait, la raison derrière ce recrutement-là, c'est parce qu'à l'époque, DC va renvoyer, mettre à la porte, ou du moins mettre fin à la pige de nombreux auteurs de bande dessinée, dont le fameux Bill Finger, parce que ces auteurs-là, qui travaillent là, chez DC depuis, pour la plupart, là, depuis les années 40, puis dans le cas de Finger, depuis les années 30, ils commencent à se faire un petit peu vieux. Puis ces gens-là demandent à DC des avantages au niveau de leur assurance médicale. Donc, ils sont vus un peu là, comme les rouges de la bâtisse. Ils sont renvoyés, puis c'est sur leur corps, en fait, que va se faire l'embauche chez DC Comics de Denny O'Neill puis de Steve Ditko.
Ouais, et O'Neill étant quelqu'un avec des...
Oui, oui, d'extrêmement engagé, c'est quelque chose qui va le tarauder plus tard. Pour revenir peut-être au rapport qui va y avoir très vite entre Ditko et O'Neill. La première histoire sur laquelle ils vont travailler ensemble, c'est en fait l'avant-dernier numéro de Doctor Strange sur lequel Ditko va travailler. Numéro 145 de Strange Tales, donc, qui était le magazine à l'époque où étaient publiées les aventures de Doctor Strange. Donc, dans ce numéro-là, et dans les 4 ou 5 numéros que Denny O'Neill va scénariser de Doctor Strange, ce qui est assez frappant, c'est à quel point Strange déambule dans la ville en costume, puis à quel point il est un peu... il est au contact des gens, ce qui permet en fait à O'Neill déjà d'écrire en périphérie du personnage les dialogues de la rue, la parole de la rue, chose qui, à l'époque, chez Marvel, est présent, bon, parce que Stan Lee a le bagou nécessaire pour faire parler ses personnages, ses teenagers comme des teenagers, etc. Mais ce qui va être particulier, c'est que tout de suite, là, chez O'Neill, c'est inscrit dès le premier numéro. Le super-héros, il fait partie de la société. Il est baigné, il baigne dans sa société. Puis c'est à travers tout ça que doit se dérouler ses aventures. Deuxième élément, en fait, qui arrive dès le premier numéro, deuxième élément, en fait, qui va traverser la carrière d'O'Neill, qui arrive dès cette première collaboration avec Ditko, c'est le rapport qu'entretient O'Neill avec la souffrance, avec la figure du martyr. Ouais. C'est quelqu'un, comme je disais plus tôt, qui a eu une éducation catholique.
Irlandaise, Irish Catholic.
Oui, c'est ça. En plus, c'est dur. C'est ça. Puis la figure du martyr va avoir une importance assez immense, en fait, dans sa carrière. Dès ce premier numéro-là, en fait, il y a une première altercation entre Strange puis le sorcier Rasputin, qui est un genre de communiste là, qui fait de la magie.
Mm-hmm.
Puis un peu à la Spielberg dans Raiders of the Lost Ark, quand Indy se retrouve face au type qui fait tournoyer son épée, puis finalement Indy dégaine son pistolet puis tire dessus. Il y a un duel mystique entre Rasputin puis Doctor Strange, puis Strange a clairement le dessus. Il commence à faire des grosses incantations avec ses doigts, puis Rasputin il sort un revolver de sa poche puis il le tire. Strange prend la balle en plein corps, puis avec sa cape parvient à s'échapper par la fenêtre. Puis après ça, en fait, tout le récit va se poursuivre à partir de la chambre d'hôpital de Strange, où il est confiné là avec sa balle à souffrir, puis en fait à créer sa projection astrale pour aller empêcher Rasputin. Donc une espèce de montage parallèle, je peux dire, qui s'instaure entre la chambre d'hôpital de Strange puis Rasputin, qui est en train de mener l'assaut sur la maison de Strange dans Greenwich Village.
Oui.
Ce que je voulais dire, en fait, ce que je veux dire par là, c'est que bon, la figure du martyr chez O'Neill, elle me semble importante parce que O'Neill va profondément moderniser la figure du super-héros, puis il va pas la moderniser en lui trouvant de nouveaux pouvoirs ou en lui trouvant des ennemis de plus en plus forts. Non, ce qu'il va montrer, c'est que ces gens-là sont capables, bon, de réfléchir, mais surtout de souffrir.
Mm-hmm.
Puis les souffrances que ces personnages-là vont avoir vont se faire ressentir à travers les numéros sur des périodes qui vont être de plus en plus longues. Et ces souffrances-là, elles sont, bon, à la fois physiques, à la fois psychologiques, à la fois morales. Par exemple, dans le cas de Green Lantern, qui est au début de Green Lantern, Green Arrow, a vraiment des doutes quant à sa mission de policier de l'espace, quand justement cet Afro-Américain lui dit « Qu'est-ce que t'as fait pour les gens de race noire?
Mm-hmm. »
Donc cette figure de martyr-là va s'étendre à travers toute la carrière de O'Neill.
Oui, c'est fin aussi. Là. C'est autant que l'on met de l'effort pour...
Oui, oui.
Il n'y a aucune solution potentielle, sauf...
Ce qui est intéressant, c'est que le super-héroïque finit par se trouver dans cette souffrance. C'est probablement ce qui a fait de O'Neill un si bon écrivain pour le personnage de Batman.
OK, ouais.
Tandis que, bon, O'Neill qui écrit Superman, tout à coup, c'est un peu moins intéressant.
Ouais.
Puis je pense que justement c'est précisément en fait ce qu'il va apporter au personnage de Batman, puis ce que O'Neill va apporter en fait, à mon avis, au genre super-héroïque dans la bande dessinée américaine, c'est justement cette idée que les personnages peuvent souffrir. Ce qui est intéressant avec la souffrance et qui par exemple là, me ramène à ce numéro de Strange Tales, c'est que dans le numéro suivant, ben Doctor Strange est en train de se promener dans la rue, puis il y a une attelle au bras parce qu'il avait pris une balle dans le bras dans le numéro d'avant.
Mm-hmm.
Donc ce que permet la souffrance chez O'Neill aussi, c'est de commencer peu à peu à étendre la sérialité.
Ah, wow! Ben oui!
C'est que, ben oui, la souffrance devient une manière,
ouais,
en fait, de dire, ben le numéro d'avant, c'est vraiment passé avant.
Ben ça devient une ligne du temps.
Exactement.
C'est très intéressant ça, parce qu'il y a, je pense que c'est Echo qui parle de ça, là, le climat onirique. Le fait
oui, oui, dans le mythe de Superman, puis qui justement fait que le texte d'Echo, au niveau de la sérialité, vieillit un peu mal.
Parce qu'il y a des gens comme O'Neill qui sont venus.
Oui, oui, assez rapidement en fait, là, parce que les histoires de Doctor Strange dont on parle, c'est en 65-66. Puis, bon, déjà là, il y a ce rapport-là, puis ça va se sentir aussi beaucoup dans ce qu'il va faire après avec Neil Adams sur Green Lantern, Green Arrow, dans la mesure où est-ce que les problèmes... Ce qui est intéressant, en fait, dans cette série-là, c'est que les problèmes moraux des personnages ne changent pas tant que ça de numéro en numéro. On fait face aux mêmes problèmes avec le même observateur qui est, en fait, un des Guardians, c'est ça?
Ouais.
Donc, les hommes bleus là, de l'espace qui donnent leur... De Oa, qui donnent, en fait, qui donnent leurs ordres au Green Lantern Corps. Puis, donc, cet observateur-là va rester en retrait durant à peu près toutes leurs aventures. Donc, les enjeux moraux vont pas changer, mais les situations diégétiques, les problèmes, les ennemis, les personnages différents, eux, vont changer de numéro en numéro. Donc, à partir de ce moment-là, vraiment, à partir de cette run-là, en bon français, Vraiment, là, O'Neill comme émerge comme un auteur à part entière, puis justement comme un auteur qui arrive sur un personnage, est capable de s'approprier le personnage, ouais. de lui donner une direction, puis de, après ça, l'abandonner un an, deux ans plus tard, en allant laisser sa marque. Puis en ce sens-là, pour moi, O'Neill est vraiment le premier auteur de la modernité dans le comic book américain.
C'est très difficile de le contredire après des arguments comme ça. Puis c'est très révélateur encore du personnage. Comment est-ce qu'il y a eu à vivre des trucs personnels et que comment gérer ces trucs-là? En fait, qu'il les a gérés publiquement à travers des avatars de papier, mais c'est, je trouve que il ne pouvait pas y avoir. C'est toujours cette question-là, tu sais, parce qu'on a tendance, quand on répertorie l'histoire, de dire un événement, un truc, puis tout.
Oui.
Non, il faut qu'il y ait une période transitionnelle, puis il faut qu'il y ait des gens qui ont vécu des trucs très précis pour être capables. Ou pour nécessiter cette transition-là, puis O'Neill le serait, plus que, encore pour reprendre ma prémisse, plus que Miller puis Moore, qu'eux ouais. autres sont vraiment venus comme
ben, on
déposer ces trucs-là.
Oui, oui, ben on va en parler d'eux autres peut-être un peu plus tard, mais c'est certain, oui, que O'Neill va être un peu leur guide là, là-dessus.
Et que lui a pu permettre, tu sais, en fait, plus que d'être quelqu'un qui vient faire une rupture. Puis là, ça va être un peu malhabile, mais c'est beaucoup plus une sage-femme. C'est beaucoup plus quelqu'un qui vient opérer la transition.
Ben, la grande différence, je dirais, là, par exemple, c'est que, bon, O'Neill, comme on a entendu dans l'extrait, commence à travailler sous Stanley. Il ne va pas travailler très longtemps chez Marvel. Il travaille à peu près 6 mois, puis après ça, il s'en va. Mais à l'époque, bon, Stanley, c'est quand même la superstar. C'est le scénariste de bande dessinée américaine à l'époque. Avec raison, là, compte tenu de tout ce qui est fait et de tout ce qui est écrit à l'époque.
Oui, ça c'est difficile de contredire.
Mais ce qui est intéressant, c'est que le rapport qu'a Stanley avec l'écriture est quand, va demeurer un rapport très enfantin. Quand Stanley se met à essayer de donner un peu de style, puis un peu de couleur, je dirais, aux différents types de dialogues que peuvent avoir les protagonistes, quand il essaie de travailler un peu là, le polylinguisme dans ses bandes dessinées, ça reste qu'il singe beaucoup des manières de parler. Tu sais, Stanley, c'est quand même quelqu'un qui, à l'époque, il est déjà dans la quarantaine. Là, tu sais, il est beaucoup plus éloigné. Son rapport au réel, ça fait déjà 25 ans là, qu'il écrit des comic books puis qu'il est habitué de les faire parler comme ça, puis qu'il s'est un peu guindé, puis que les gens parlent avec des points d'exclamation constamment dans des phrases qui sont essentiellement déclaratives.
Il a aussi dit qu'il s'imprégnait de Haight-Ashbury simplement pour récupérer ce langage-là, pour
c'est
parler
ça.
Aux jeunes.
Exactement.
C'était une technique mercantile.
Ben oui, tandis qu'O'Neill, à l'époque, début vingtaine, puis il incarne ce langage-là beaucoup mieux, bien mieux.
C'est ça, tu sais, la déception. Vietnam, par exemple, était beaucoup plus près de la génération d'O'Neill que de Stanley, qui
la
voyait avec un...
Oui, puis ce qui est important, je trouve, aussi, avec l'arrivée d'O'Neill, c'est que il me semble, bon, probablement parce que c'est un homme qui va énormément lire à l'époque, par exemple, Jack Kerouac, qui va beaucoup lire de la poésie beat, c'est un homme chez qui la musicalité du scénario est très importante. Puis cette musicalité-là, chez Stanley, par exemple, elle va passer dans des rimes un peu faciles. Chez Finger, par exemple, chez Bill Finger, il y a une musicalité qui vient surtout des répétitions de mots ou des homonymes. Beaucoup. Mais chez O'Neill, il y a une vraie musicalité de la langue qui prend racine non seulement dans le patrimoine culturel, ethnique des personnages qu'il représente, mais aussi dans le contexte social dans lequel l'aventure se passe présentement. Donc vraiment, là, encore une fois, là, tout ça s'inscrit là, dans ce qui me fait dire qui est un peu la pointe là, de la modernité.
Absolument. Oui. Et on l'a vu via plusieurs exemples.
Oui, tout
en
à fait.
Parce que là, il faut ouvrir, j'imagine, ça.
Ben là, peut-être le deuxième, on a un deuxième et dernier extrait.
Ah, allons-y.
On peut aller vers ça.
Ben oui, je vais faire ça à l'instant. On va aller le réentendre. Cette fois-ci, je pense que la qualité de l'enregistrement va être meilleure parce que
c'est tiré
directement de Fatman dans Batman.
De Kevin Smith. Fait que celui qui va rire, c'est Kevin Smith. De toute façon, on va tous le reconnaître.
Oui, c'est ça. Ça se reconnaît assez rapidement, ce rire-là.
That's what Julie Schwartz did. He took a lot of those characters. Batman, they never revamped, though.
And either did I. I came into being the Batman editor in the middle of one of the company's periodic kind of universe crunches to have a reason to bring things up to date. Mm-hmm. These characters do. Iron Man started as a Vietnam arms dealer. Well, that would not play for very long. So the characters have to be updated. Mm-hmm. And DC was doing that line wide. I think I could have changed Batman, but I thought about it for maybe a nanosecond and thought, boy, if ever something wasn't broke, this is it.
Right.
I can't possibly improve on what Bill Finger came up with in 1939. You say he saw his parents murdered when he was 8 years old, and you have everything in that sentence that you need to understand the character. Superman, it's a little more, bit more complicated, but Julie was not doing Superman. I think Mort Weisinger still was. So Julie reinvented superheroes, the exteriors, mm-hmm. what they do, how they do it. Mm-hmm. Stan Lee, meanwhile, on the other side of Manhattan Island, was reinventing the way comics were written. He brought an entirely new attitude toward the writing of the scripts. He brought characterization. He brought slang, which was a casualty of the witch hunts. You know, you didn't want to give the kiddies any bad example of people using improper grammar.
So you couldn't leave G's off.
Yeah, right. So everybody spoke in quite proper declarative sentences. Thank you. And what they did was guaranteed not to offend anybody.
Right.
Ce que je trouve intéressant, c'est, bon, il dit par exemple que ce que Julie Schwartz va changer, en fait, dans l'industrie du comic book, c'est la manière dont les actions super-héroïques sont menées. Ce que Stan Lee va amener, en fait, c'est la manière dont les personnages parlent. Je dirais que ce que Denny O'Neill va amener, c'est pourquoi les personnages font ce qu'ils font. Puis, c'est vraiment ça, en fait, qui va faire que le comic book de super-héros, à mon avis, va perdurer là, aussi bien jusqu'à aujourd'hui, puis il va ouvrir la porte justement dans les années 80 à des gens comme Alan Moore, comme Frank Miller. Parce que tout de suite, en fait, c'est pour revenir encore là, à Green Lantern, Green Arrow, puis à cet homme noir qui va sermonner Green Lantern, c'est justement la question qui est en creux de tout ça. T'sais. C'est pourquoi tu irais aider les hommes de l'espace quand tu n'es pas en train d'aider les hommes noirs qui sont en train de souffrir en Amérique. Donc ça m'apparaît assez central dans le travail d'O'Neill, puis en fait central dans sa manière de travailler les figures super-héroïques. Donc par exemple, dans le cas de Batman, quand il arrive sur Batman, il va commencer il va travailler en fait avec Neil Adams, qui est l'autre chantre, je dirais, de cette bande dessinée engagée qui commence à se faire, en tout cas, ou du moins engagée avec le réel, qui commence à se faire chez DC Comics. Donc, Neil Adams va en fait répondre à l'écriture de O'Neill avec un dessin qui, à l'époque, peut être qualifié d'hyper-réaliste.
Mm-hmm, oui, dans des standards de comics de cette époque-là.
Ben oui, tout à fait, mm-hmm. avec des échelles de plans qui ont beaucoup plus de variété. On peut passer du plan très, très large au plan extrêmement rapproché chez Adams. Je pense, par exemple, à ce que fait durant le Kree-Skull War, quand il y a cet épisode où... Dans les Avengers chez Marvel, où Ant-Man rentre en fait carrément dans le corps de Vision, où là justement le style d'Adam nous permet d'aller très près des détails, puis
mm-hmm.
donc Adam c'est vraiment ça. Puis donc ce qui est intéressant avec O'Neill quand il commence à écrire sur Batman, c'est que plutôt, comme on entendait dans l'extrait, plutôt que de réinventer le personnage du début, il va essayer de repartir du travail de Bill Finger, de repartir en fait des paramètres qui constituent le personnage en les prenant en soi, pour soi, sans nécessairement penser en fait à toute l'histoire pop culturelle qui s'est écrite sur Batman depuis 1939, donc en oubliant le show de télé de Batman des années 60, faisant fi de ça. Puis, en se disant de manière très réaliste, voilà, on a un personnage qui a perdu ses parents, comment il réagirait à ça, pourquoi il irait combattre le crime, puis il se pose ce genre de questions-là, en revenant un peu à la base du concept de chacun de ces personnages. Il se pose cette question-là à travers tous les personnages, mais en particulier les vilains, les antagonistes, mm-hmm. qui va se mettre en fait à psychologiser de manière très intéressante. Si on regarde par exemple la manière dont Bill Finger écrivait les villains de Batman, c'était essentiellement des gens qui étaient obsédés par des objets. Two-Face est obsédé par sa pièce, Joker par sa carte, Calendar Man par le calendrier, etc. Mm. Ça se décline à toutes les sauces. Ben, Denis O'Neill, en fait, lui, il va remonter un peu avant ça, puis il va se poser la question d'où vient ce traumatisme? Pourquoi ces gens-là sont obsédés? Qu'est-ce qui fait qu'ils sont en train de commettre ces crimes-là? Donc, il va commencer, en fait, à psychologiser les personnages, à un point tel que, finalement, le Joker devient vraiment le Joker sous O'Neill, dans la mesure où est-ce que, avant, il était un criminel brillant et qui était capable souvent de déjouer les attentes de Batman, mais avec O'Neill, il devient, en fait, vraiment l'autre moitié de Batman. Ouais, tout ce que Alan Moore va faire avec le Joker dans Killing Joke, ben, O'Neill commence à le faire avec le Joker dans les années 70, entre autres dans une série que je vous conseille qui est en fait disponible sur l'application de DC Comics, donc okay. application PC, tablette, etc., qui est une série qui s'appelle Joker, publiée en 75, 76, 77, qui est écrite par Denis O'Neill et dont le protagoniste, c'est le Joker.
Wow! Puis en même temps, cette façon-là d'aborder les personnages, que ce soit le héros ou le vilain, ça fait école maintenant.
Oui.
On n'est plus du tout dans une ère où on ajoute des trucs sur les super-héros, en fait, parce qu'on a assez d'histoires. Puis bon, évidemment, vous allez penser à qu'est-ce que Morrison a fait avec Batman aussi,
oui,
qu'est-ce que Morrison
fait.
A fait avec Star Superman. Oui. C'est d'aller chercher des vieux trucs dans le canon et dire, regarde, ça, c'est là. On ne l'a pas exploré correctement. Aussi, cette idée-là de personnifier les vilains, pas juste dire, ben c'est une force de méchant, là.
Oui, tout à fait. Ben, en fait, on est à une époque, puis depuis, dans le comic book américain, depuis au moins une bonne trentaine d'années, j'ai envie de dire, où est-ce qu'on n'est plus en train de rajouter des choses à des personnages, ouais. on est en train d'essayer d'en enlever, de les extraire pour voir de quoi ils sont faits, les personnages, hein, qu'est-ce qui compose leur être.
C'est très intéressant. Oui, parce que les innovations sont pratiquement...
Ben, c'est plus vraiment ça qui m'intéresse, parce que si on était... Je disais, l'innovation dans le comic book, par exemple, il l'a eu... Bon, elle a été là au début, elle a été là dans les années 50-60, dans l'ère de l'exploration spatiale essentiellement, puis l'innovation dans le comic book, c'est plus souvent autrement traduit par plus de gadgets, plus de méchants, plus de véhicules...
Changement de costume.
Mm-hmm. C'est l'innovation dans le comic book, ça a souvent été ça. Ça a été une manière d'en vendre plus.
Oui, ouais, absolument. Puis là, on est peut-être plus dans une ère où si on a à changer quelque chose, on va faire un succès d'année. On va faire une copie on the side. Les choses qu'Alan Moore voulait dire sur Superman, il les a dit avec Supreme. Les choses que Warren Ellis voulait dire à propos de Fantastic Four, il les a dit dans Planetary.
Exact.
Ces trucs-là, d'être capable de peut-être conserver l'unicité de ces icônes-là. Mm-hmm. Intact, mais tout de même en faisant continuer l'histoire, parce que bon, Planetary, ça va toujours parler de Fantastic Four et tout.
Oui, exactement.
Mais en même temps, cette idée-là aussi de mettre une dimension, un caractère psychologique au vilain, ça serait aussi très bien représenté par la création de Rachel Gould. Le fait que Denis O'Neill a créé une théorie qui est somme toute assez personnelle, mais que Batman a un vilain pour chacun de ses aspects. Mm-hmm. Donc, la première fois où j'ai parlé de ce truc-là en public, c'est que je disais l'important vilain de Batman pour l'aspect The World's Greatest Detective, c'est sans doute Riddler. Riddler est le plus grand opposant à la notion détective.
Ben, c'est l'ultime fabricateur d'énigmes.
Exactement. Et que chacun des vilains de Batman ont... représente l'antagonisme d'un aspect. Donc, Two-Face, c'est l'aspect vigilant. Et on peut continuer dans plein d'autres directions. Rage, très rapidement, devient le leg. Mm-hmm. Vient qu'est-ce qui va venir après Batman. Que ce soit dans la notion éco-terroriste, est-ce que Batman va devenir un fasciste à super-pouvoir? Et aussi, est-ce que Batman va avoir un enfant? T'sais, tout ça a été l'avenir tel qui peut être promis pour Batman et représenté dans les problématiques que Raish amène. Fait qu'encore ça, tu sais, Denis a vu quelque chose qui n'était pas exploité chez Batman, c'est quoi son avenir? Puis il a fait, je vais faire un vilain pour son avenir.
Oui, ben oui, ben, puis surtout, tu parles d'avenir, puis c'est sûr que c'est pas pour rien en ce sens-là que Raish Al Ghul est immortel.
Et aussi, ça c'est un bon point, moi j'allais dire, c'est pas pour rien non plus qu'il est le vilain principal des films.
Oui.
T'sais, c'est qu'est-ce que c'est l'avenir de Batman? Ben là, l'avenir est au cinéma, donc il faut qu'on mette Rache. Rache va être l'orchestrateur. Mm-hmm. Talia sera le dernier coup de dague, le dernier coup de poignard au couteau, au cœur. C'est une petite métaphore d'escrime. Mais il y a... Puis c'est encore, c'est ça, j'ai pas l'impression que c'est totalement fait de manière consciente. Ouais. C'est juste que Denis O'Neill est l'homme qu'il nous fallait.
Ben, ce qui est intéressant avec, à partir du moment où Rachel Cole arrive dans le décor dans les années 70, c'est qu'il est présenté assez rapidement comme celui qui pourra empêcher le Batman de faire ce qu'il a à faire. Il est plus tout, il est plus fort, il est immortel. C'est vraiment la figure contre laquelle il va s'opposer de manière vraiment dichotomique là, à travers tous les aspects là, physiques, mentaux, symboliques, idéologiques du personnage.
Ouais, c'est vrai.
Puis ça m'amène à un autre trait en fait qui traverse la carrière d'O'Neill, c'est la dualité, c'est les figures duelles. On pense par exemple encore à Green Lantern, Green Arrow. Puis on pense, ben en fait, je pense à cette manière qu'il a de toujours avoir deux personnages qui puissent se répondre l'un et l'autre. Pas tout à fait comme Finger, ou qui cherchait en fait quelqu'un avec qui Batman pouvait parler, puis qui a inventé Robin Dick Grayson en 1940, mais vraiment quelqu'un, un personnage avec qui en fait le discours idéologique ou le rapport justement au politique pourrait justement gagner avec de la densité, en fait, en intégrant de nouvelles dimensions, de nouvelles subjectivités, de nouveaux points de vue.
La confrontation des idées.
La confrontation des idées, le débat. Donc, ça permet, en fait, ces figures duelles sont très présentes chez O'Neill, puis en fait, va faire que, pour lui, c'est important qu'il y ait un conflit, comme on disait plus tôt, qui soit à la fois physique, mais aussi idéologique. Le conflit, il est toujours sur les deux registres. Donc, ce qui m'amène peut-être au travail, en fait, d'O'Neill en tant qu'éditeur.
Mais oui.
Son travail en tant qu'éditeur est capital. Non seulement, ben en fait, il arrive chez DC Comics, puis il reprend en fait au complet l'écurie Batman après Crisis on Infinite Earth. Puis c'est essentiellement sous le règne d'éditeur d'O'Neill que Jason Todd va devenir le Robin très chiant que personne n'aime. Oui, c'est ça.
Il n'y a pas d'autre manière de le dire. Je trouvais que c'était humoristique, mais effectivement, c'est juste...
Non, mais c'est vrai qu'il est chiant. Puis d'ailleurs, je vous conseillerais, ça n'avait jamais été réédité plus tôt. Ça vient juste d'être... puis j'imagine que ça va passer dans le bar, là, mais il y a un trade paperback qui vient d'être édité par DC Comics qui s'appelle Batman Second Chances, qui est en fait les premières histoires de Batman d'après Crisis on Infinite Earth.
Okay.
C'est les premières histoires sur lesquelles Denis O'Neill va être éditeur. Puis, ce qui est intéressant, ben, c'est que c'est dessiné par Jim Starlin, puis Jim Aparo, qui vont être ceux qui vont dessiner aussi Death in a Family.
Ah, ben oui, t'as raison.
Puis, c'est scénarisé par un type qui, à cette époque-là, fait ses premières armes, Max Allen Collins, qui va, par la suite, écrire Road to Perdition.
Oh!
Ben oui, puis il est un romancier succès.
Aïe, aïe, OK.
Ben oui, fait qu'il commence... avec Batman dans les années 80.
Post-Crisis? Wow, ben
oui.
OK.
Ouais. Puis en fait, c'est dans ces histoires-là que tranquillement, on voit Jason Todd piquer sa crise d'adolescence, ouais. Puis être un peu là, la voix de l'adolescent des années 80 qui grandit dans l'ère Reagan, puis qui est complètement là, opposé, ben, qui s'oppose peu à peu aux idéaux de Batman.
C'est très... Wow, c'est extrêmement intéressant.
Ben, pour continuer, c'est sous O'Neill, là, bon, évidemment qu'il va rentrer Frank Miller. Frank Miller va commencer à faire ce qu'il a fait avec Dark Knight Returns, avec Batman Year One. Puis encore là, les figures duelles, bon, ça va être présent dans Dark Knight Returns entre Batman et Superman. Puis ça, c'est quelque chose qui, il me semble, d'une certaine manière, vient d'O'Neill, dans la mesure où est-ce que l'omniprésence du... Ben, pas venir, mais en tout cas, doit être inspiré parce que faut savoir, petite parenthèse, qu'à l'époque, Frank Miller, ça fait vraiment des années qu'il travaille avec O'Neill. Parce qu'avant d'être chez DC puis de faire Dark Knight Returns, il était chez Marvel, il faisait Daredevil. Et qui était l'éditeur de Daredevil à cette époque-là? C'était Denis O'Neill. D'ailleurs, Denis O'Neill va écrire de magnifiques histoires avec le personnage de Daredevil durant les années 80. puis des histoires dessinées là, par Mazzucchelli, entre autres.
Oh, ouais. Ouais.
Donc, en tout cas, quand O'Neill arrive chez DC, il va ouvrir la porte à Frank Miller, ils vont faire ensemble Dark Knight Returns, après ça Batman Year One, après ça va venir Alan Moore Killing avec Joe. Des Killing Joke.
Ouais.
Bon, énormément de thèmes après ça qui sont ressassés. Puis O'Neill, en fait, à cette époque-là, se fait un peu, souhaite s'effacer plus que tout derrière les auteurs. Puis il va même dire, emmener en entrevue, que si ce n'était que de lui, il préférerait que son nom n'apparaisse pas. En tant qu'éditeur, sur les comic books qu'il édite. Parce qu'il fait tout justement pour protéger l'auteur, pour être un peu l'oreille qui va écouter l'auteur. Donc, ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'à partir de ce moment-là, on assiste à quelqu'un, un éditeur, qui est, dans les années 80, probablement l'auteur de comic books américains, un des plus prolifiques des années 70, un des plus importants, puis qui passe de l'autre côté de la clôture, chez les corporates, les cravatés, qui va en fait devenir le douanier entre la volonté éditoriale de DC Comics puis la volonté créative des auteurs. Donc, à mon avis, l'importance de O'Neill est aussi majeure ici, c'est que c'est lui qui va protéger ces gens-là. Et je ne crois pas, en fait, je suis pas mal certain que jamais Alan Moore ou Frank Miller n'auraient eu les carrières qu'ils ont eues dans le comic book de Sparrow s'ils n'avaient pas été protégés par Danny O'Neill.
Absolument, parce qu'il y a des... Ben, en fait, c'est intéressant, le numéro qu'on mentionnait au début, que Speedy était un junkie, un Snowbirds Don't Fly, quand il l'a présenté, il raconte qu'ils ont rapidement vu la problématique de mettre le Comic Code Authority, puis il était comme, qu'est-ce qu'on fait avec le code? Puis très rapidement, la bureaucratie a fait, fais juste pas le mettre.
Ouais.
Et il s'est probablement... il a probablement appris énormément de ça, parce que plusieurs années plus tard, il a pu se présenter au comité éditorial ou au comité administratif de DC puis dire, j'ai un scénario ici, c'est Killing Joke.
Exactement.
Moi, je change pas une virgule dedans. En tant qu'éditeur, il y a aucun mot que je changerais. Donc, on le publie.
Ou on le publie pas.
Exactement. On le publie intact ou on le publie pas du tout. Tout ça a une façon très, très, je veux pas dire, karmique, balancé, yin-yang, parce qu'on sait qu'il y a aussi grande affection pour les arts martiaux et le bouddhisme, mais il a été capable de prendre les leçons et les appliquer pour ensuite donner des opportunités.
Oui, et les mettre à profit pour les auteurs qui allaient travailler sous lui. Puis il va demeurer l'éditeur de Batman jusqu'en l'an 2000. Donc tout ce que... l'apparition de Bane, Nightfall,
je parlais...
Oui, c'est ça.
Azrael.
Oui, c'est ça, avec Azrael. L'arrivée de Joe Quesada dans le décor, etc. Tout ça. C'est vrai. Arkham Asylum aussi. C'est lui qui... À moins que je fasse erreur, là, mais moi, ce que j'ai lu, c'est qu'il avait édité tout Batman d'à peu près 86 à 2000. Donc, on lui doit là, quand même beaucoup. En tout cas, sont passés entre ses mains énormément d'excellents scénarios et d'excellentes planches de bande dessinée.
Et d'une importante histoire la bande dessinée.
Oui, parce que Batman, avant 1986, il prend plus ou moins de place aujourd'hui là, dans la culture populaire. C'est vraiment un autre Batman. Peut-être pour finir rapidement... ce qui va... on parlait là, de figures de martyrs, ça va encore aussi être très présent là, quand je pense, par exemple, un peu la Pietà que Jim Starlin va dessiner de Batman quand il tient son Robin, quand il décède. C'est en effet Danny O'Neill qui va éditer aussi Death in a Family, où Robin, Jason Todd, sous vote du public, en fait, va être condamné à mort par le lectorat, après que les gens aient eu l'occasion de voter par téléphone en appelant une ligne ou l'autre, en disant « j'aimerais que Robin survive » ou « non, j'aimerais qu'il meure ». Puis bon, finalement, la légende veut que les gens aient voté majoritairement pour sa mort. Donc, ce qui...
ça prend toujours un petit moment de rigolade là-dessus.
C'est dommage hein, que ça se fasse plus du tout comme ça.
Oui, absolument.
Puis,
il fallait que ça arrive une fois. C'est stellaire, tu sais. C'est comme ça arrive.
Puis je dirais que ce qui va vraiment peut-être dernier point par rapport à Nightfall que je trouve assez intéressant, c'est que Nightfall c'est un gros story arc déployé sur énormément de séries différentes qui va durer presque un bon 2 ans.
Absolument.
Et là aussi, au niveau, bien que ça soit pas une grande série, Je dirais qu'au niveau de la structure, c'est une série extrêmement passionnante dans la manière dont les différents... Puis ça, c'est peut-être quelque chose que les trade paperbacks, les plus récentes rééditions, donnent plus ou moins à voir, étant donné que, c'est, que ça a été publié, là, en, ça a été republié en ordre, réédité plutôt, en ordre chronologique. Tandis qu'à l'époque, c'était vraiment des séries, en fait, là, qui se passaient le flambeau.
Ouais, c'est ça, c'était le numéro 11, ouais, le numéro 2, le numéro 7, le numéro...
C'est ça. Puis c'est en fait, encore une fois, la part de la souffrance du handicap qui est là dans Nightfall, le fait que Batman se brise le dos. Puis à partir de ce moment-là, juste le fait que Batman se blesse, ben, ça vient déployer en fait un story arc qui va justement prendre 2 ans avant, avant de se résoudre. Puis ce handicap-là, tout comme la souffrance, tout comme le martyr, ça traverse tellement l'œuvre d'O'Neill que, bon, de Nightfall jusqu'à, pour revenir une dernière fois à Green Lantern, Green Arrow, c'est encore là, parce que déjà dans Green Lantern, Green Arrow, le martyr, la souffrance, c'est d'une certaine manière... une façon pour Hal Jordan, Green Lantern, de se rapprocher du peuple et de vivre le politique. Dans la mesure où est-ce qu'une des premières choses qui est décidée dans le road trip que Green Lantern doit faire avec Green Arrow à travers les États-Unis, c'est Green Arrow qui dit « Hal Jordan, on va faire ça en civil, en vrai homme. Donc, hein, ta bague, on, mollo, hein, tu t'en sers pas trop souvent. » Puis c'est un peu drôle, cet entendre de cette là, parce que concrètement, il n'y a rien qui empêchait Green Lantern de s'en servir. Mais en effet, pendant ce passage-là d'O'Neill, Green Lantern va être un peu plus gêné avec sa bague. Ce qui va, là, encore une fois, ben augmenter en fait le rapport de réalisme que la série va avoir avec son contexte social, parce que justement, ben il n'y a pas un policier de l'espace qui, à tout moment, peut sortir sa bague.
Ouais, hey, je dois t'interrompre à ce moment-ci pour te remercier énormément. C'était fascinant, puis je répète encore pour les auditeurs, allez les lire, vous voyez comment il y en a qui sont disponibles que très récemment. Allez lire ça, Mathieu, suivez ce que Mathieu écrit en comique, puis on vous revoit la semaine prochaine. Merci tout le monde. Merci beaucoup, Mathieu. Vraiment.
Merci. Merci.